Retour dans notre émission Point de repère hors piste en notre compagnie Elisabeth Lestrange. Elisabeth Lestrange, vous êtes actuellement chargée de recherche dans le département d'histoire de l'art de l'Université de Liège. Vous êtes notre invitée aujourd'hui pour nous parler des maternités saintes, des genres, des dynasties et de la culture visuelle à la fin du Moyen-Âge. C'était le thème de votre thèse, une thèse que vous avez présentée à l'Université de Leeds. Jusqu'à présent, nous avons abordé les cérémonies, les rites et leurs parallèles, leur écho dans des images, des tableaux ou des enluminures qu'on peut trouver notamment dans les livres des ors. J'aimerais qu'on revienne justement un instant sur ces illustrations en tant que telles pour parler en fait des grandes figures de la foi qui ont été mises en avant à l'intérieur de ces images puisqu'elles étaient liées à la maternité. Qui étaient ces femmes, en fait?
Oui, mais comme je disais tout à l'heure, on trouve les images de la naissance de la Vierge, de Saint Jean-Baptiste et du Christ, évidemment. Et donc, on y trouve donc trois mères saintes très célèbres. Donc, on a déjà la Vierge Marie, on a sa cousine Sainte Élisabeth qui est la mère de Saint Jean-Baptiste, et on a aussi Sainte Anne qui est la mère de la Vierge Marie.
Alors, Sainte Anne, elle a eu beaucoup d'importance, en fait, Sainte Anne.
Il y avait un culte très, très important autour de Sainte Anne, surtout en Angleterre, mais aussi en France et en Allemagne. Et donc, évidemment, son histoire ne se trouve pas dans la Bible qu'on connaît aujourd'hui, mais on connaît des histoires sur elle dans les livres qui ne font pas partie du
canon, mais enfin, les gens le connaissaient, quoi, oui. Tout à fait.
Et donc, on a, avec ces trois femmes-là, des histoires de la maternité miraculeuse. Disons, donc, Sainte Anne et Saint Joachim qui attendaient un enfant, et même jusqu'à l'âge de, je ne sais pas, 80 ans.
Oui, très âgé, oui.
Très âgé. Et enfin, Dieu leur accordait un enfant, donc la Vierge Marie. Et puis, on a aussi l'histoire de Sainte Élisabeth, qui a aussi conçu Saint Jean-Baptiste.
Très tard.
Très tard. Et comme témoin du Christ. Et donc, évidemment, la conception miraculeuse de la Vierge Marie.
Alors, pourquoi est-ce que les femmes de l'époque ont pu être intéressées justement par ces figures de maternité miraculeuse? En quoi est-ce qu'elles pouvaient faire le lien avec leur propre expérience?
Mais il y avait les possibilités d'aller faire un pèlerinage, par exemple, au lieu saint, ou qui était lié soit avec la Vierge Marie, ou avec Sainte Anne, ou Sainte Élisabeth, ou d'autres femmes qui aussi ont conçu un enfant dans des circonstances un peu différentes, disons. Et on pensait à l'époque que ça pourrait aider à la conception
de l'enfant.
De l'enfant. Et on peut dire aussi que je trouve que surtout Sainte Anne, parce que imiter la Vierge Marie, c'est pas quelque chose de très facile, sinon impossible. Mais Sainte Anne, par exemple, c'était quelqu'un à qui Dieu accordait un enfant parce qu'il trouvait qu'elle
le méritait.
Qu'elle le méritait. Et donc, comme c'était une femme mariée, qui était patiente, voilà, donc c'est une possibilité.
Pour s'identifier plus simple que la Vierge.
Que la Vierge, oui. Et pareil pour Sainte Élisabeth. Donc, on trouve que le culte de Sainte Anne, il fonctionne pour beaucoup de choses, en fait, mais. Parmi ces choses, voilà, la conception d'un enfant, et non seulement les femmes, mais aussi pour
les hommes.
Les hommes qui voulaient aussi avoir un héritier.
Oui, dans le livre, vous signalez en effet que les hommes aussi participent
à ce
culte.
Il ne faut pas exclure les hommes de ce genre d'études, en fait, parce que ce sont les hommes qui sont touchés aussi par le besoin d'avoir un enfant.
Oui, justement, hein, on le rappelait tout à l'heure, cette importance de la dynastie. Mais en fait, pour donner un dernier élément sur ce rapprochement, sur cet intérêt, sur, je ne vais pas dire cette fascination, mais cette identification qu'on pouvait avoir avec ces saintes, c'est que vous citez dans votre ouvrage des cas bien réels de femmes qui ont attendu très longtemps pour avoir un enfant, alors que justement, elles étaient dans leur rôle aristocratique, presque dans la nécessité d'en avoir un.
Oui, c'est ça. Et donc, on trouve aussi que des dévotions spécifiques à, par exemple, Sainte Anne, par des femmes qui s'appellent Anne. Et qui attendait un enfant. Donc justement, je parle d'Anne de France, donc la sœur de Charles VIII, ou Anne de Bretagne, qui était la femme de Charles VIII et ensuite Louis XII.
Alors justement, ces femmes-là, c'est là-dessus que vous terminez votre ouvrage. En fait, vous consacrez deux grands chapitres, ainsi que d'autres articles, à des figures de femmes, puisqu'en fait, toutes ces remarques, toutes ces observations que vous avez faites sur les matériaux, aussi bien iconographiques que traditionnels ou rituels de l'époque, vous les appliquez sur des cas concrets. Et vous montrez que dans certains cas, on va en citer un ou deux noms, vous venez en fait de les citer, Anne de France, si je ne me trompe pas, vous expliquez comment non seulement elles sont parvenues, dans le cadre de leur rôle de mère, à se libérer quelque peu des carcans qui les entouraient, notamment grâce à ce matriarcat, et donc à s'aménager un peu de liberté. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer sur quelle base est-ce que vous vous appuyez pour affirmer cela en fait ? Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Comment est-ce qu'elles ont utilisé en fait ces figures de saintes ?
Oui. Si on prend par exemple le cas d'Anne de Bretagne, donc c'est la dernière femme dont je parle dans le livre, elle était mariée deux fois avec le roi de France, donc comme je disais, avec Charles VIII et puis Louis XII. Et donc de Charles VIII, elle a eu plusieurs enfants, dont un qui a survécu quelques années, et puis il est mort d'une maladie d'enfant. Et puis à la mort de Charles VIII, elle était quasi obligée de se marier avec Louis XII. Et de ce mariage-là, elle a aussi eu des problèmes pour concevoir un enfant. Et donc, on a beaucoup de... Anne de Bretagne, c'était une grande mécène des manuscrits notamment. Et on connaît surtout son livre d'heures, ses grands heures, qui est à la Bayenne à Paris. Et là, on la voit présentée par Sainte Anne, une image de la Vierge, une Pietà. Mais on voit aussi d'autres exemples dans ses manuscrits où elle fait appel à Sainte Anne ou à Sainte Élisabeth. Et on peut dire que voilà, elle était en train de prier Dieu pour avoir un enfant. Parce que justement, Anne de Bretagne, elle était reine de France, mais elle était aussi duchesse de Bretagne. Et donc, elle espérait désespérément, en fait, de garder l'indépendance de la Bretagne. Et donc, elle espérait avoir au moins deux enfants pour pouvoir assurer l'indépendance de la Bretagne et pour pouvoir donner l'héritier à la maison de France. Et donc, on a notamment un livre qui est maintenant à Chicago. Ce n'est pas un livre d'eux, mais c'est un petit recueil de prières où on trouve notamment des prières à Sainte Anne, à Sainte Marguerite, qui était la sainte patronne des femmes en couche, et aussi la sainte patronne de sa mère, Marguerite de Foix, mais aussi une prière qui était apparemment dite par Saint Léonard pour l'accouchement de la première reine de France, Clotilde, donc la reine de Clovis. Et donc, c'est une prière qui a libéré la reine de France, et donc, elle a inclus cette prière dans son manuscrit à elle, Anne. Ça veut dire qu'elle fait à la fois l'allusion entre elle, reine de France, et Clotilde, première reine des Francs, de France, et cet espoir d'avoir un enfant, d'avoir un accouchement facile pour donner l'héritier
au trône.
Oui, du trône et de la Bretagne.
Oui, de la Bretagne, oui.
Et c'est un manuscrit qui date de son mariage avec Louis XII, donc on peut dire qu'elle était vraiment pressée
à ce moment-là
pour avoir l'enfant dont il attendait. Donc,
Mais Élisabeth Lestrange, il y a encore un deuxième aspect qui explique justement l'existence, et je veux dire les références multiples à toutes ces femmes enceintes et saintes, en quelque sorte. C'est que pour pouvoir s'aménager cet espace de liberté, pour un peu pouvoir diriger, pour parvenir au projet que vous décrivez pour cette souveraine, il fallait qu'elle puisse avoir son mot à dire, justement, sur l'éducation de ses enfants. Oui. Et là aussi, on revient à la figure de Sainte Anne, qui est très emblématique de ce rapport.
Oui, justement. La figure de Sainte Anne, c'est non seulement quelqu'un qui a conçu un enfant très très tard dans sa vie, mais c'est aussi l'éducatrice de la Vierge Marie. Donc, on la voit non seulement dans les images de l'accouchement, donc de la naissance de la Vierge, mais aussi en train d'éduquer sa fille ou ses filles, parce qu'on dit qu'elle est aussi mariée trois fois, Sainte Anne. Donc, elle a eu trois filles qui s'appellent Marie. Donc, on sait qu'Anne de Bretagne, elle a utilisé cette image de Sainte Anne qui éduquait ses enfants, sa fille, pour éduquer sa propre fille Claude. Donc, on a aussi un livre de prière qui était commandé par Anne de Bretagne pour sa fille Claude, qui deviendra la reine de France aussi, quand elle est mariée avec François Ier, où on la voit en train d'apprendre à lire d'un livre de prière, par exemple. Donc, elle est présentée par Sainte Anne à son saint patron.
Mais déjà, à l'époque, j'imagine que tout le monde ne savait pas lire, mais affirmer cette présence du livre et de l'écriture et de cette transmission aux femmes, à des femmes, c'est quand même quelque chose d'assez énorme, non ?
Oui, et quand l'étude devient un peu pointue, parce qu'on peut pas dire que tout le monde savait lire à l'époque, et surtout les femmes. Donc, mais dans le monde aristocratique, dont je parle à la fin du livre, c'était une façon pour les femmes d'assurer l'éducation de leurs enfants. On appelle à l'image de Sainte Anne. Et donc, Anne de Bretagne elle-même même comme sa belle-sœur Anne de France, faisait appel à cette image-là pour montrer qu'elle était aussi bien éduquée, qu'elle prenait soin de ses enfants et de leur éducation.
Et donc, qu'elle avait un rôle à jouer.
Oui, et donc, elle était aussi non seulement la mère sage, comme la sage Sainte-Anne, veuve et mère en plus. Donc,
C'est ça, c'est-à-dire qu'en tant que mère... En tant que mère, elle était proche de Sainte-Anne, et Sainte-Anne étant sage, la sagesse de Sainte-Anne retombait un peu sur elle, en quelque sorte.
Exactement.
Élisabeth Lestrange, nous arrivons à la fin de cette interview. Est-ce qu'on peut dire à la fin de notre entretien qu'en fait, aussi bien les hommes que les femmes, ils se sont appropriés ces messages religieux, parce qu'une société patriarcale peut s'appuyer sur certains textes bibliques en disant « la femme, c'est le démon, c'est Ève », etc. Mais là, on voit aussi une appropriation de certaines figures religieuses par les femmes pour développer, en fait, leur liberté.
Ouais. Je crois que c'est toujours une appropriation, en fait, des images. On utilise des images, même aujourd'hui, on les utilise pour ce qu'on veut. Et donc, on peut dire aussi qu'à l'époque, il ne faut pas nier le fait que les femmes avaient des façons d'interpréter des images aussi bien que les hommes. Donc, même si les femmes sont dans une position...
Un peu de soumission, quand même.
Soumission inégale par rapport aux hommes, ils avaient quand même les notions, des façons, des connaissances, pour reprendre le mot de Baxandale, d'interpréter les images pour elle-même. Et donc, c'est ça qu'il faut...
sur laquelle il faut assister. Ouais, vous rendez aux femmes leur possibilité, justement, d'interprétation, d'avoir un regard sur les œuvres, sur les rituels de leur époque et de pouvoir elles-mêmes en faire usage, entre guillemets.
Tout en reconnaissant que ça s'est reproduit dans une société patriarcale,
bien sûr.
Mais que si on nie les instances où les femmes pouvaient interpréter des images, donc on nie la possibilité de faire une histoire des femmes. Donc,
Élisabeth Lestrange, actuellement, vous continuez à travailler sur ces thèmes ou vos recherches vous emmènent autre part?
Ça m'intéresse toujours. Pour l'instant, je mène d'autres recherches sur le regard des femmes dans les tournois du 15e siècle. Donc, la façon que les femmes regardaient les hommes dans les spectacles du 15e siècle. Et je me continue à m'intéresser aussi sur le mécénat d'Anne de Bretagne. C'est surtout une de mes intérêts très, très important.
Vous nous tenez au courant. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. On vous remercie beaucoup de nous avoir expliqué justement ces espaces de liberté qui ont pu exister dans certaines circonstances bien particulières dans cette fin du Moyen-Âge. Je rappelle votre ouvrage La Sainte Maternité, genre, dynastie et culture visuelle à la fin du Moyen-Âge. Moi, je viens de donner le titre en français. Vous pouvez nous dire le titre en anglais?
Le titre en anglais, c'est Holy Motherhood, Gender, Dynasty and Visual Culture in the Later Middle Ages.
On peut l'acquérir d'ailleurs sur Amazon. Je vous remercie en tous les cas, Élisabeth Lestrange. Au revoir.
Merci, au revoir.
Point de repère, regard hors piste. Une émission présentée par Laurent Vorporten.